Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Alors, puisque nous démarrons une nouvelle année, je ne vais pas manquer de vous souhaiter une bonne année 2024. Une année empreinte de douceur, d'émerveillement, d'amour, d'humour, mais aussi de chemin de traverse, de pas de côté, de main tendue et de doute. Et sur ce dernier point, notre première invitée de l'année ne me contredirait pas, puisqu'elle a si bien mis à l'honneur les gens qui doutent. Ah, j'en entends déjà certains réagir. Comment ça, Anne Sylvestre, une chanteuse dans un podcast où on y parle de littérature? Soyons clairs, si Anne Sylvestre n'a rien à faire ici, alors Bob Dylan va devoir restituer illico presto le prix Nobel de littérature qu'il a reçu en 2016. Et toc. Sans compter qu'on pourrait ouvrir à nouveau ce vieux débat pour savoir si, oui ou non, la chanson est un art mineur. En ce qui me concerne, je vous le dis tout de go, pas de doute concernant cette question pour moi, la chanson est bien un art majeur. D'où la présence d'Anne Sylvestre aujourd'hui dans ce podcast. Certes, nous n'évoquerons pas spécifiquement ses chansons, mais le seul livre qu'elle ait fait paraître et qui ne comporte pas de chansons, un recueil intitulé « Coquelicot et autres mots que j'aime ».
On chante et on écrit, surtout, on écrit parce qu'autrement on va mourir, mais mourir vraiment. Oui. Et je pense que l'écriture est quelque chose qui aide, qui pas simplement aide à vivre, mais aide à ne pas mourir.
Je signe toujours ça, oui, bien sûr. C'est exactement ce que j'ai toujours pensé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu écrire dès mon plus jeune âge. C'est ça qui me tient debout.
C'est bien Anne Sylvestre que nous venons d'entendre avec l'extrait d'un enregistrement de Lina, réalisé pour ses 60 ans de carrière, une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube également. Mais comme d'habitude, sans plus attendre, comme mise en bouche, je vous propose de découvrir non pas le premier texte de cet ouvrage « Coquelicot et autres mots que j'aime », mais celui qui s'appelle « Aiguiller », un texte que j'ai déjà partagé à de nombreuses reprises à mes proches. L'aiguiller, c'est l'exacte longueur de fil ou de coton nécessaire à la brodeuse pour réaliser son motif. Si son aiguillée est trop courte, elle devra s'arrêter en chemin, faire un point d'arrêt, puis un nouveau nœud pour en repartir une nouvelle. Mais ça sera moins beau si on retourne l'ouvrage, et la broderie se juge aussi par son envers. Si en revanche l'aiguillée est trop longue, cela fera du gaspillage, car le bout restant sera trop court pour repartir un motif. Sans compter qu'un très long fil oblige à faire des gestes de bras excessifs qui retardent le mouvement. C'est tout l'art de la brodeuse, de savoir organiser son travail en respectant à la fois l'économie et la beauté de l'ouvrage. Je dis « brodeuse » et l'on pourra me reprendre là-dessus. Il y a eu, il y a encore des brodeurs, des hommes aux doigts habiles, aimant le contact de l'étoffe et la beauté qui émane de tous ces points minutieux, de ces fils colorés ou ton sur ton, aimant aussi par-dessus tout ces prétextes délicats au silence, à la méditation. Mon ami Laurent, magicien des fleurs, brode aussi à ces moments trouvés des nappes, des têtes de drap qu'on croirait sorties de l'atelier d'une fée. Parfois, il les dévoile, l'air mystérieux, les sort de leur papier de soie, et nous rêvons. Au temps de la marine à voile, lors de longues journées, à la recherche du vent et des lieux de pêche, les marins, dit-on, brodaient au petit point des tapisseries naïves, sachant rendre douces leurs grosses mains malmenées par les filets. Que de fleurs, que de voiles, que de sirènes ont dû éclore à leur bord. À l'image de ces brodeuses, si prévoyantes quant à la longueur de leurs fils, je me dis parfois qu'on devrait mesurer la longueur de patience qu'il faudra pour arriver à vivre certaines choses, la longueur de peine ou de douleur nécessaire pour vivre les chagrins, mais ne pas oublier la longueur illimitée du bonheur à vivre et à donner, pelote qu'on laisserait se dévider, se dérouler sans qu'il soit besoin d'y faire un nœud. Savoir bien mesurer sa dernière aiguillée. Alors, sa situation sur mon étagère, eh bien, coquelicot et autres mots que j'aime, se trouve sur l'étagère dédiée aux chansons, poèmes, entre les poèmes et chansons de Georges Brassens et le dictionnaire amoureux de la chanson française de Bertrand Dical. Je ne pense pas qu'Anne Sylvestre aurait désapprouvé cette place, d'autant plus que Brassens a été un précieux sponsor pour elle à ses débuts. Mais si on lui avait demandé à côté de quel chanteur elle aurait aimé être, puisque son répertoire a été avant tout celui de la chanson, elle aurait sans doute cité les chanteurs qu'elle affectionnait, à savoir Alexis Hachka, Aldebert et Gauvin Serre. Anne Sylvestre, de son vrai nom Anne-Marie Begras, est une autrice, compositrice et interprète qui est née le 20 juin 1934 à Lyon et elle passera son enfance tout près, à Tassin-la-Demi-Lune. Elle a deux frères aînés et une sœur cadette, la romancière Marie Chaix. Elle a commencé à écrire très tôt, dès l'âge de 10-11 ans, et fera des études de lettres à Paris, avant de les délaisser pour se consacrer entièrement à la chanson. Elle commence donc sa carrière dans les années 50, dans les cabarets La Colombe, La Contrescarpe ou Les Trois Baudets, tout comme Guy Béard, Pierre Perret ou Georges Brassens. Et c'est d'ailleurs Brassens qui la reconnaît en 1961 comme celle qui se distingue des autres chanteurs de la nouvelle génération par son interprétation, par la sobriété de son écriture et les qualités qu'il attribuait aux chansons intérieures ou poèmes chantés, comme il disait, loin des registres du music-hall. Elle devient une chanteuse populaire dans les années 60 et 70, mais c'est surtout une des premières à s'être autoproduite, car les médias ne lui ont pas vraiment fait beaucoup de place. Ceci étant, tous ses concerts étaient complets et elle obtiendra 4 fois le Grand Prix international du disque de l'Académie Charles Cros pour ses albums. Son écriture est ciselée, précise. Dans ses textes s'entremêlent l'indignation, la tendresse, l'humour. Elle évoque dans ses chansons des drames de l'intime, le thème des violences faites aux femmes, le choix d'avorter ou pas, avec sa célèbre chanson « Non, tu n'as pas de nom », sortie avant la loi Veil, chanson qui n'est d'ailleurs pas passée à la radio à l'époque. Elle abordera aussi le sujet de la misère, des sans-abri, de l'homosexualité et des préjugés. Avec ses chansons, on est dans la compassion, toujours du côté de l'humain. On pourrait la qualifier de chanteuse engagée, mais elle a toujours refusé ce qualificatif. Elle affirmera d'ailleurs sa position dans une chanson intitulée « Chanson dégagée ». Féministe, elle l'était, c'est certain, et indignée aussi, avec un caractère bien trempé, mais je dirais aussi sensible et libre avant tout. Et son répertoire en est la preuve. Libre aussi dans sa forme d'expression, car elle ne se cantonnera pas aux chansons, entre guillemets, pour adultes, mais à partir de 1970, elle réalisera 18 albums de chansons pour enfants avec ses célèbres fabulettes. Elle a signé près de 400 chansons et marqué plusieurs générations, que ce soit avec son répertoire pour les grands ou celui pour les plus petits. En 1998, Un recueil est publié au Castor Astral, Sur mon chemin de mots, recueil qui rassemble l'intégralité de ses chansons dites pour adultes. Je vous propose à présent d'écouter ou de réécouter cette chanson emblématique d'Anne Sylvestre que nous avons évoquée pour commencer ce podcast, Les gens qui doutent, même si elle s'offusquait qu'on la ramène toujours à ce texte. Alors, pour éviter qu'elle s'emporte là où elle est à présent, puisqu'elle nous a quittés il y a déjà 3 ans, si elle nous entend, j'ai choisi plutôt une version qu'elle appréciait vraiment, celle revue et corrigée par Ben Mazoué.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui n'osent, parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent, moitié dans leur godasse et moitié à côté. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs os dans nos printemps. Disent que l'âme fait de bien plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Merci. Merci pour la tendresse. Et tant pis. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Coquelicot et autres mots que j'aime, c'est une jolie ribambelle de mots qu'on aurait pu retrouver en partie dans les fabulettes d'Anne Sylvestre. De Coquelicot à Amour, en passant par Empélopsis et Débaroulé, ce sont plus de 80 mots qu'elle a choisi d'évoquer en racontant ce qu'ils suscitent pour elle. Dans ce recueil, elle s'y dévoile un peu plus que dans ses chansons, puisqu'elle fait appel à ses souvenirs d'enfance. Elle nous offre ses petits bonheurs du quotidien. On y retrouve aussi son humour et ses indignations. Elle s'amuse avec la prononciation de certains mots. Des mots à savourer, à déguster. Tiens, par exemple, l'élégance du mot acacia avec ses 3 A. Le mot liquide de pluie. Et le petit plop de la goutte que l'on peut faire avec la première lettre P. Des mots qui font des ricochets entre souvenir et instant présent. On y découvre son premier amour d'enfant sous les traits d'un jardinier polonais qu'elle suivait partout à 4 ans dans le jardin de ses grands-parents. Sa tendresse pour les vaches, celle de son enfance jusqu'à celle du salon de l'agriculture, les vaches qu'elle a par ailleurs chantées avec la vache engagée, on déambule entre calanque, île et lac, marelle, escalier, bois flotté, verger, baliverne et bilvesé. Beaucoup de poésie donc et de tendresse dans ce recueil dédié à sa sœur, Marie. Comment j'ai découvert ce livre ? Alors voilà un des nombreux bienfaits des bibliothèques municipales, s'il était encore besoin de les mettre en avant. Cet ouvrage, c'était une surprise, puisque la médiathèque que je fréquente avait eu la bonne idée, il y a quelque temps, d'emballer des livres et de proposer au lecteur d'emprunter ses cadeaux sans savoir bien sûr ce qui se cachait derrière l'emballage. C'est donc comme cela que j'ai découvert pour la première fois ces textes d'Anne Sylvestre, une belle surprise parue en 2018 aux éditions Point dans la collection Le goût des mots, qui est dirigée par Philippe Delerme. Écoutons à présent un deuxième extrait du recueil d'Anne Sylvestre avec une lecture du texte intitulé « Humus » qui nous est proposé par Antoine.
Humus. Il me saute aux narines. Il me nimbe. Il m'étourdit et me fait pousser sous les pieds des radicelles et des feuilles le long des bras. Il me vole tous les pots, sous-bois, champignons, noisetiers, rayures obliques du soleil entre les troncs si parallèles, et même fougères, ces fougères au nom si beau qui abritaient, disait-on, des vipères, et dont on devait se méfier, ne les aborder que chaussées de bottes. Humus. Il me vole aussi les ronciers où je me déchirais les mollets dans les courses effrénées de mes 13 ans sauvages. Humus. Il me monte à la tête, il me saoule, me désoriente, même s'il me laisse entrevoir au coude d'un sentier, une biche et son faon, une renarde suivie de ses petits, une famille de hérissons, s'il m'offre un tapis de fraises, des bois ou des trompettes de la mort, une débauche de muguet, de pervenche et de sceaux de Salomon, s'il me frissonne aux oreilles de ses bouleaux, de ses chaînes, s'il me blesse de ses houx. Humus. Il me signale qu'il est là, dans ses mousses et ses brindilles, qui craquent sous mes pas, ses glands tombés qui ne germeront plus, ses feuilles mortes réduites en charpie, et son odeur si familière et si sauvage, qui me remplit et stagne quelque part en moi, qui ne veut pas que j'oublie et qui me murmure. C'est là que tu viens, et c'est là que tu vas. Et moi, le citadin, je sais pourtant qu'il dit vrai. Humus, hache aspirée, maman.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
résonance. Un autre recueil résonne pour moi avec l'ouvrage d'Anne Sylvestre. Il s'agit de celui paru aux éditions Plume de Carotte, qui s'intitule « Quand la nature inspire les écrivains ». De Virgile à Mo Yan, en passant par Jim Harrison et Albert Camus, c'est une traversée dans la nature à travers la plume de 50 écrivains. J'ai choisi comme auteur ou autrice, comme vous voudrez, une autre femme d'avant-garde, celle qui s'était renommée George Sand, qui s'habillait en homme, défendait les femmes et avait développé un véritable amour sensuel de la nature. Dans l'extrait de texte que j'ai choisi, qui est issu des Nouvelles lettres d'un voyageur et qui date de 1877, George Sand écrit un véritable manifeste pour la biodiversité. Je préfère, au jardin arrangé et soigné, ceux où le sol riche par lui-même de plantes locales permet le complet abandon de certaines parties, et je classerai volontiers les végétaux en deux camps, ceux que l'homme altère et transforme pour son usage, et ceux qui viennent spontanément. Rameaux, fleurs, fruits ou légumes, cueillez tant que vous voudrez les premiers. Vous en semez, vous en plantez, ils vous appartiennent. Vous suivez l'équilibre naturel, vous créez et détruisez, mais vous n'abîmez pas inutilement les secondes. Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et pour l'art, ces mauvaises herbes, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. Elles sont vraies, elles sont des types, des êtres complets. Elles nous parlent notre langue, qui ne se compose pas de mots hybrides et vagues. Elles présentent des caractères certains, durables. Et quand un milieu a imprimé à l'espèce une modification notable, que l'on en fasse ou non une espèce nouvellement observée et classée, ce caractère persiste avec le milieu qui l'a produit. La passion de l'horticulture fait tant de progrès que peu à peu tous les types primitifs disparaîtront peut-être, comme a disparu le type primitif du blé. Pénétrons donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la forêt cachent et protègent le jardin naturel. J'en ai découvert plus d'un, et même assez près des endroits habités. Un taillis épineux, un coin inondé par le cours égaré d'un ruisseau, les avait conservés vierges de pas humains. Dans ces cas-là, je me garde bien de faire part de ces trouvailles. On dévasterait tout. Une citation de l'auteur, Anne Sylvestre, tirée donc de son recueil Coquelicot et autres mots que j'aime et qui vous permettra encore d'apprécier toute la poésie qu'il recèle. Le capodastre est un petit appareil que les guitaristes placent sur le manche de leur instrument et qui, en appuyant sur les cordes, en modifie la tonalité. On devrait bien inventer un dispositif qui, appliqué sur nos vies, permettrait en appuyant au bon endroit de les faire résonner plus agréablement. Les arbres et l'humus. Après le texte d'Anne Sylvestre que nous avons entendu et qui était consacré à l'humus, voyons d'un peu plus près le lien très étroit qui existe entre les arbres et l'humus. Nous avions vu lors du premier numéro de ce podcast que la température en plein soleil dans les villes pouvait diminuer de 7 degrés dans une rue bordée de grands arbres par rapport à une rue qui en serait dépourvue. Eh bien, on peut constater également des différences de température entre, par exemple, une forêt de conifères qui aurait été éclaircie par l'homme et une vieille forêt de hêtres naturels, toutes deux étant pourtant situées à proximité l'une de l'autre. En effet, dans une forêt de pins éclaircie, on va trouver un sol sableux et pauvre. À l'inverse, dans une forêt de hêtres où on aura laissé une couche épaisse d'humus au sol, on pourra constater une différence de 10 degrés entre ces deux endroits. Car plus une forêt est constituée de bois vivant, mais aussi de bois mort, plus l'humus sera important et plus l'eau sera retenue dans le sol. On savait donc que le feuillage des arbres est important comme ombrage l'été, mais n'oublions pas le rôle de ce cher humus qui lui aussi apporte une précieuse contribution dans le rafraîchissement de la température ambiante. Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.